c'est Raymond Poirier. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Toujours un plaisir, évidemment, de vous retrouver en ces émissions pour parler bande dessinée, pour plonger dans la sphère du 9e art. Et il y a des moments, des fois, où les émissions sont bien dirigées, bien cadrées d'un point de vue thématique. Il y a d'autres semaines, comme c'était le cas aujourd'hui, eh bien, où on va dans différents sens. Je me laisse un peu imprégner par le flot des albums que je n'ai pas lus, par le flot des albums aussi qui m'arrivent au fil de la rentrée. Et également par le flot du Readtober, puisque à l'image des années précédentes, eh bien, je me suis replongé dans cette initiative, dans ce défi qui a été imaginé par Marc Gagnon, associé au Cégep de la Pocatière, qui, plutôt que de faire un Inktober, dans le fond, décide de faire un défi de lecture autour des thématiques du Inktober. Pour ceux et celles qui ne dessinent pas, mais qui aiment en lire de la bande dessinée. Et toutes les 31 jours d'octobre, on y va d'une lecture et d'une suggestion, donc de lecture. Des suggestions d'ailleurs que je vous partage par le biais de la page Facebook de La Vie en BD, ainsi que de la page Instagram de La Vie en BD. Les hyperliens d'ailleurs là, sont retraçables sur lavieenbd.com. Si vous ne nous suivez pas déjà sur l'une et l'autre de ces plateformes. Et donc, je ferme la parenthèse pour dire que ce flot-là, cette variété, cette richesse également de production et de lecture, ces temps-ci, m'ont amené donc vers deux titres pour l'émission d'aujourd'hui. Un premier, peut-être influencé un peu par l'air du temps, peut-être aussi influencé par le fait que j'en avais pas encore parlé, que je tenais à le faire. Je trouve que c'est un très bel album et encore une belle démonstration du potentiel que peut avoir la bande dessinée pour synthétiser, pour développer, pour approfondir des sujets complexes. Il s'agit de « C'est le Québec qui est né dans mon pays » d'Emmanuel Dufour. Donc, du côté des co-sociétés, un album autour un peu, on pourrait dire, d'une démarche de réconciliation, d'une démarche de réflexion dans notre relation avec la culture, les cultures autochtones. Et notre méconnaissance, dans le fond, aussi de ces cultures-là. Un album très, très riche. On va vous proposer cette entrevue en première moitié, donc dans quelques instants. Et en deuxième moitié, on va complètement ailleurs. Je suis tombé sur un ovni. En fait, ça m'est arrivé tout récemment et ça fait pas très longtemps que c'est sorti. Ça s'appelle Vinyasa Ninja, le pouvoir du yoga. Un album jeunesse qui vise essentiellement à nous proposer une méthode, une approche à la fois dans l'imaginaire et à la fois dans le très, très, très pratique pour appréhender le yoga, mais à travers un imaginaire peut-être un peu plus guerrier, donc qui risque d'accrocher tout particulièrement chez les jeunes garçons, mais peut-être aussi chez des jeunes filles qui ont un appétit pour ce type d'imaginaire-là. Et vraiment, en fait, c'est un ovni qui mérite qu'on s'y attarde. Et je me suis dit que je n'avais pas envie d'attendre trop longtemps pour vous en parler. Alors ça, ce sera en deuxième moitié. Donc, Emmanuel Dufour en première moitié et Olivier Carpentier ainsi qu'Olivier Hamel en deuxième partie. C'est le menu pour cette semaine à La Vie en BD. Maintenant dans un album, ça fait un bout de temps que je dois en parler, je pense que c'est un bon moment pour le faire. Il s'agit de « C'est le Québec qui est né dans mon pays », un album qui est disponible du côté d'Éco-Société. C'est écrit et dessiné par Emmanuel Dufour qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, un album qui est né d'une certaine façon d'un déclic de ce que j'en ai compris, où à un moment donné, on se rend compte qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît trop peu les réalités, l'histoire des Premières Nations ici au Québec et ici au Canada.
Oui, mais en fait, c'est la manière dont la trame narrative est conduite. Mais en fait, moi, c'est une démarche qui s'étend sur une dizaine d'années, donc sur un travail. Donc, j'ai fait une maîtrise en anthropologie sur la sécurisation culturelle. Donc, c'était vraiment une démarche depuis longtemps qui était amorcée. Mais j'avais vraiment envie de trouver une façon de vulgariser les résultats de recherche. Donc, j'avais envie, suite à mon travail, que mon père, ma mère, mes amis, mes concitoyens, les gens aient la chance de faire une rencontre aussi, parce que moi, ça a vraiment été une occasion de rencontre avec les réalités coloniales, avec les personnes autochtones avec lesquelles j'ai travaillé, avec lesquelles je suis devenue amie. Donc, ce projet-là, c'était mon projet doctoral. Et puis, l'idée, c'était vraiment de décloisonner les résultats de recherche. Puis après ça, c'était la prémisse de base, si je dirais. Puis ça, c'est devenu vraiment autre chose. C'est devenu encore plus, je dirais. Mais c'est sûr que quand on lit la BD, on peut avoir l'impression, finalement, que qu'au moment de la commencer, je partais de rien ou que c'était un petit peu un processus d'enquête, mais c'est pas tout à fait ça parce que ça faisait déjà plus de près de, je me rappelle plus combien d'années, mais entre 5 et 10 ans que je travaillais avec les premières destinations déjà.
Oui, puis en fait, j'imagine qu'à un moment, justement, comme vous dites, quand on veut amener des travaux de recherche, des travaux de réflexion de type académique vers justement le récit peut-être un peu plus narratif, il faut se trouver un fil d'Ariane, il faut trouver une piste, dans le fond, à partir de laquelle on va pouvoir construire, puis à partir de laquelle on va pouvoir impliquer le lecteur. Et dans le fond, ce questionnement-là que vous amenez au cœur de C'est le Québec qui est né dans mon pays, c'est un questionnement que nous, comme lecteurs, on peut s'approprier. Donc, j'imagine qu'à un moment donné, ça s'est imposé comme la solution pour développer le fil narratif.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, j'avais commencé par ce qui est devenu le cinquième chapitre de la bande dessinée, qui est comme une vulgarisation graphique de mes résultats de recherche sur la sécurisation culturelle. Donc, l'idée, c'est un petit peu de rendre... Ça a été sorti dans le cadre d'un concours académique, là, tu sais, un peu le genre, votre thèse en 360 secondes ou je sais pas. Et là, c'était en fait le concours du Conseil de recherche en sciences humaines qu'on peut utiliser la bande dessinée pour faciliter finalement la compréhension de nos résultats de recherche. C'est commencé comme ça, ça s'est ouvert sur un projet de recherche-création et je pensais aller plus là-dedans. Mais au moment de le créer, je me suis dit que la question du qui raconte est quand même importante. Quand je parle de sécurisation culturelle, je ne suis pas autochtone, je ne suis pas un prof autochtone, je ne suis pas une enseignante qui travaille avec des étudiants de Première Nation, je ne suis pas la directrice de l'institution Kimna. Donc, à la base, je vais simplement insérer un petit chapitre introductif pour introduire mes biais, dire un petit peu mon point de vue, donc expliquer mon chemin, mais tu sais, je pensais que ça allait être très, très court et que le côté vulgarisation graphique allait être vraiment le plus important. Mais à mesure que je me suis mise à chercher de ce côté-là, j'ai trouvé et à discuter, tu sais, dans les ateliers que je donnais avec les gens ou quand je discutais avec les personnes allochtones et autochtones autour de moi, je me rendais compte qu'il y avait tellement à dire au niveau de la méconnaissance, du malaise et donc, c'est là que j'ai décidé finalement de laisser libre cours à ce côté-là, le côté plus réflexif. Ou auto-réflexif, un peu plus comme autographique qu'on trouve souvent en bande dessinée. Et d'un côté, je trouvais que ça valait la peine parce que je pense qu'au niveau des Québécois notamment, il y a une très grande méconnaissance et au moment de commencer, on en parlait très peu. Tu sais, là, les choses ont quand même bougé, je dirais, dans les dernières années, mais quand j'ai commencé ce projet-là, il y a 5 ans, parler de méconnaissance puis parler de malaise colonial, c'était très rare. Puis, en parlant avec les gens autour de moi, je me rendais compte qu'on est plusieurs à le ressentir, on est plusieurs à avoir ce malaise-là, mais il n'y a jamais un espace sécuritaire pour en parler, fait qu'on préfère comme passer ça, puis ça se répercute dans les salles de classe. Plusieurs professeurs hésitent, ben, je pense qu'on peut dire hésitent encore aujourd'hui à en parler parce que comme on a été si peu formés, on ne connaît pas vraiment, on ne veut pas faire de faux pas ou bien même. C'est que dans le malaise, évidemment, le malaise, c'est comme très large. On peut aller d'un simple inconfort à carrément un repli, puis un rejet, puis même avoir des versions révisionnistes. Mais je trouvais que c'est important qu'on ait un dialogue entre personnes autochtones et allochtones sur ça, sur comment on le vit, d'où ça vient, c'est quoi les mécanismes à l'œuvre là-dedans, l'éducation, la représentation médiatique, tout ça, à partir de nos savoirs expérientiels et quelles sont les conséquences de ça. T'sais, donc, les personnes autochtones, c'est vraiment comme un dialogue, c'est tissé à partir de ça, cette volonté de donner de la place à ça pour comme une sorte de préparation à la rencontre.
Oui, puis en fait, j'ai l'impression, puis je reviens un peu avec l'idée justement qu'on, je trouve que c'est une belle façon d'engager aussi le lecteur dans cette démarche-là parce que vous vous présentez, évidemment, vous mettez en place, mais voici qui je suis, voici où, au moment de commencer à rédiger ça, comment je me plaçais dans la connaissance, puis dans la connaissance de ma méconnaissance aussi. Ouais. Et d'entrée de jeu, dans le fond, on réalise aussi la profondeur peut-être de notre méconnaissance. Puis au fur et à mesure qu'on explore l'album, pour moi, c'est un récit qui ouvre des questions. Dans le fond, ce n'est pas un récit qui donne des réponses, non, mais c'est un récit qui nous permet d'aller chercher des meilleures questions, je trouve. Ouais.
C'est le mécanisme de s'utiliser comme un prétexte finalement d'identification ou de différenciation. T'sais, c'est un mécanisme qui est souvent utilisé en bande dessinée. Là, si on parle, je ne me compare pas à ces grands-là, mais Joe Sacco, par exemple, comme quand il va en territoire, il arrive, il se présente vraiment comme un ignare, comme il est toujours un peu perdu, il fait des faux pas, il est malaisant. Mais en même temps, c'est que ça permet que le lecteur soit pas plongé dans un monde qui est complètement, mais je parle pour les allochtones, disons, dans un monde qui est complètement inconnu, puis que qui a du mal à se positionner, il s'identifie. C'est comme ça donne un véhicule pour naviguer, pour entrer dans un nouvel univers culturel. Et je pense que, ben, selon ce que m'ont dit plusieurs lecteurs de Première Nation, de l'autre côté, ça leur permet de voir, de comprendre un petit peu plus la posture, de comprendre pourquoi le, sans nécessairement l'endosser ou l'accepter, mais de comprendre un peu plus le fossé. Tu sais, pourquoi tant d'indifférence, pourquoi on en parle si peu, pourquoi, tu sais. Donc, c'est sûr que quand on s'utilise comme ça, l'idée, c'est pas de parler de soi, tu sais, l'idée, c'est pas, je vais vous dire, Emmanuel, là, tu sais, parce que je vois pas l'intérêt, mais c'est vraiment de se mettre en scène comme un véhicule, tu sais, pour permettre, puis on n'a jamais le bon rôle non plus là-dedans, là, tu sais, comme, finalement, tu sais, c'est la personne qui est un peu toujours, mais c'est vrai, c'est basé sur une vraie expérience, sur une vraie méconnaissance, sur des questionnements, des certains, que je mets de l'avant certaines croyances, certains préjugés aussi que dont j'avais hérité, puis tout ça. Mais l'idée, c'est vraiment à travers un processus là, que c'est un peu comme un dialogue à trois entre mon expérience, celui de mes contributeurs, tu sais, il y a une cinquantaine de contributeurs autochtones et allochtones, et le public, tu sais, donc parce que on voit des éléments, puis en utilisant qu'est-ce qui vient, ça aurait pu être fait en récit, mais qu'est-ce qui vient avec les images, c'est l'évocation de tout, par exemple, de notre patrimoine culturel, on reconnaît des images, on reconnaît des images médiatiques, on reconnaît, donc ça va un peu brasser nos propres souvenirs, puis notre propre construction cognitive, là, si je peux dire, à travers l'image, à travers une réponse à l'image.
Exact, en fait, puis il faut quand même une certaine humilité pour mettre de l'avant un peu et dire, ben voici comme je suis avec mes biais, avec mes préconceptions. Ça nous amène à travers l'imagerie, entre autres, à travers les éléments de réflexion, à comprendre ça aussi au départ, puis ensuite à être ouvert à cette rencontre-là aussi, parce qu'il faut, j'ai l'impression, pour véritablement rencontrer quelqu'un, il faut savoir où on se place par rapport à cette personne-là, quelles idées on a, puis après ça, on va pouvoir avoir un vrai dialogue en ayant conscience d'où on est positionné, nous.
Exactement, puis c'est très bien dit, puis je trouve que souvent, quand on parle de réconciliation, souvent, assez rapidement, on est souvent dans une posture de, tu sais, par exemple, quand on apprend des choses choquantes, comme les pensionnats autochtones, on n'a jamais entendu parler, puis on veut en entendre parler, on est un peu dans une posture de prendre, mais dans une posture externe, comme si c'était une situation qui était propre aux Autochtones. Mais tu sais, la question de la réconciliation ou bien de la conciliation, parce que pour parler de réconciliation, il aurait fallu qu'il y ait conciliation dans l'histoire, chose que j'ai jamais encore vue, mais c'est comme disait Mary Sinclair, qui est le commissaire de la Commission de réconciliation, c'est pas un problème autochtone, c'est un problème canadien, on fait tous partie. Fait que j'ai l'impression souvent l'étape qui manque et qui, en mon sens, est tellement la plus importante pour les dossiers autochtones, mais pour beaucoup de dossiers, là, c'est justement l'aspect réflexif, c'est l'aspect de faire du ménage à l'intérieur de soi-même d'abord pour faire de la place, pour que rentre de nouvelles données, de savoir qu'est-ce que je connais, qu'est-ce que je connais pas, et surtout d'où me viennent les connaissances que je crois avoir à ce sujet-là, de déconstruire un peu. Tu sais, quand on fait partie d'un système, tu sais, qui est un système qui est colonial, qui s'est établi sur des centaines d'années, qu'il y a beaucoup de trucs qui sont ingérés de façon inconsciente, mais qui forge notre compréhension de la réalité. Puis c'est pas facile à déconstruire. Fait que c'est pas une bande dessinée qui a une prétention de raconter les histoires autochtones. C'est vraiment, on va se raconter une histoire, un nous inclusif. C'est comme une sorte de portrait. Puis chacun est appelé justement à faire son petit travail pour après aller mieux à la rencontre des peuples autochtones. Fait que c'est exactement ça, réussir à mieux se situer dans cette relation-là, en fait.
Et j'imagine que de partir avec une démarche comme ça, avec un a priori comme celui-là, après ça, quand on va chercher justement des Florent Volant, des Michel Audet, des Ghislain Picard, des Hélène Gabriel, des Mélissa Molin-Dupuis, des Puissance Harris et bien, bien d'autres, on l'a mentionné, c'est une cinquantaine de gens issus de l'autochtonie que vous avez été rencontrés, ben, j'imagine que pour eux aussi, ça les met en confiance, ça les permet de sentir et écouter véritablement, de savoir qu'on part avec ces assises-là et avec cette volonté réelle d'échange, dans le fond, puis de compréhension.
C'est vraiment intéressant là, d'amener la question de la collaboration. C'est sûr, ben, tout d'abord, sans eux, il n'y aurait pas eu de bande dessinée. Donc, c'était vraiment pas une histoire que j'aurais pu raconter seule, évidemment. C'est parce qu'on le dit, c'est une bande dessinée relationnelle. L'idée, c'est qu'on parle. Puis, la chance que j'avais, ou bien, en fait, pas tant de chance parce que j'aurais sûrement pas pensé à faire cette bande dessinée-là sinon, mais c'est que comme je travaillais depuis longtemps dans ce domaine-là, j'avais beaucoup de relations, un réseau de confiance déjà établi. Donc, quand je me suis présentée avec mon projet de bande dessinée, par exemple, à Prudence, qui est la directrice de l'Institution Kimuna étant comme vraiment un des partenaires clés là, de ce projet-là, ben je sortais pas de nulle part. Tu sais, c'était Emmanuel qui parlait prudence. Tu sais, que ça fait déjà, tu sais, j'avais déjà fait ma maîtrise sur
la relation était tissée.
Exactement. Donc, parce que ça, c'est toujours un défi. Tu sais, comme souvent en tant qu'artiste, on est inspiré par une cause, on fait une approche. Puis parfois, les artistes peuvent être un peu surpris ou déçus que la réponse ne soit pas tout de suite, mais surtout dans les relations autochtones, puis Prudence t'en parle aussi dans la préface. Ce n'est pas une relation qui se crée comme ça. Là. Il y a aussi une histoire d'abus, donc de méfiance, surtout en recherche. Un anthropologue là, qui se pointe, là, je vais faire une bande dessinée sur vous. Sachant en plus que la bande dessinée, ça utilise beaucoup la stéréotypie, tu sais, c'est un langage. Fait que, évidemment, c'était de mettre à contribution ces relations-là. Il est aussi important de dire, comme je disais, le rôle central que jouait Kiuna, les cinquantaines de personnes qui ont contribué ou qui ont accepté de participer, c'est vraiment, leur participation s'étale sur un spectre vraiment très large. Tu sais, on va de la simple citation d'un livre ou d'un colloque, mais qui est approuvé par la personne, le dessin est approuvé, puis tout ça, à le partage d'un souvenir commun. C'est tu sais, par exemple, la fois qu'on a marché ensemble, Inoumichkinou, je l'ai lu ce moment-là, encore là, tout le temps avec consentement, puis avec approbation, puis tout ça. D'autres ont participé à des entrevues avec ou sans maquette, tu sais, que je montrais ma maquette dans les différentes étapes. Les commentaires, ils répondaient, puis tout ça, puis on prenait un de ces extraits-là, puis c'était ce qui était intégré.
Vraiment une démarche de collaboration, de co-création presque avec
eux. Ça. Et il y en a même que, justement, c'était vraiment de la consultation, en plus de ça, en plus de l'entrevue, puis tout ça, qui me donnaient leur avis là, sur les pages, que ça, je vois, moi. Fait que c'est vraiment, il n'y a pas de gradation, tu sais, mais la co-construction, la co-création, comme vous dites, je pense que c'est important aussi de prendre pour acquis que, encore là, les Premières Nations, ils n'ont pas rien que ça à faire. Tu sais, comme ils ont toutes leurs. C'était tous des gens que je connais qui sont mobilisés, là, tu sais, qui sont actifs, qui ont beaucoup de. Qui livrent des batailles super importantes. Fait que l'idée, c'était d'ouvrir la porte, mais laisser aussi le choix selon l'intérêt, la disponibilité de participer à la façon qu'ils veulent. Tu sais, il n'y avait pas. Bon, tu sais, parce que souvent, ce qu'on voit, malheureusement, malgré que c'est bien intentionné, c'est. Ah, j'ai besoin d'une personne de Première Nation pour mon projet que j'ai déjà tout pensé comme ça, puis il faudrait qu'elle fasse ça. C'est comme un peu pour valider ou bien, tu sais, pour remplir la place que je lui ai donnée. Puis moi, évidemment, étant, puis ça, c'est juste, je l'ai appris au fil des années, mais je savais que c'était pas comme ça qu'on peut collaborer, là, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est très, très, très large. Puis je pense que ça fait partie aussi du succès de cette bande dessinée-là. C'est vraiment que tout le monde y a donné du sien à sa façon, à sa mesure, avec, tu sais, sans beaucoup de générosité de leur côté. Là. Ça a vraiment été une belle histoire d'amitié, là, la création de cette bande dessinée-là. J'en garde que des bons souvenirs, à part le rush de la fin, évidemment, c'est tout le temps. Mais sinon, tu sais, ça a vraiment permis de revisiter nos relations, même, tu sais, personnellement, là, c'est comme un... Tu sais, évidemment, recherche-création, ou dans les méthodologies de recherche autochtone, on souhaite tout le temps qu'il y ait un petit aspect transformatif, là, sans prétendre changer le monde. Mais tu sais, on espère qu'à l'issue de la lecture, ben, il va y avoir quelques petites portes qui vont s'être ouvertes, comme vous dites, pas nécessairement donnant des réponses, mais peut-être d'autres portes de questions. Mais pour moi-même, ça a été vraiment assez cathartique comme expérience. Puis je pense que c'est propre de plusieurs bandes dessinées de ce type-là, tu sais.
Ça permet d'aller jusqu'au bout d'une démarche, puis en même temps, en l'amenant par le visuel, par l'approche bande dessinée, j'ai l'impression que ça force aussi beaucoup au synthétisme à aller à l'essentiel, à trouver l'essentiel, puis à réfléchir à pourquoi ouais. Ça serait ça l'essentiel aussi.
Ouais. Oui, puis d'ailleurs, tu sais, la bande dessinée est assez volumineuse, là, c'est 200 quelques pages. Puis moi, au moment de commencer, je n'étais pas une BDiste. Fait que tu sais, évidemment, mon but, ce n'était pas de créer une œuvre d'art. Je voulais vraiment développer un langage, en fait, un langage facilitant. Fait que ça a toujours été ça le but. Donc, il fallait trouver une façon de dessiner, mais dessiner assez vite. Parce que dans la thèse, il y a la bande dessinée qui est l'objet central, le plus important, mais il y a aussi le manuscrit analytique qui fait comme 250 pages. C'est beaucoup de travail. Puis je ne faisais pas que ça à temps plein. Mais que je voulais pas, puis on sait que quand on lit de la bande dessinée, souvent l'œil ne reste pas longtemps sur chacune des dessins, tu sais, comme puis mais c'est différentes approches, il y en a qui sont plus artistiques, d'autres plus synthétiques. Mais moi, pour moi, mes barèmes, c'était plutôt une représentation respectueuse, c'est comme de faire attention à toutes les. Encore là, quand on parle de stéréotypie, c'est pas toujours négatif dans la bande dessinée, mais l'évocation de stéréotypes ou bien de figures qu'on peut reconnaître, sais, que vite, vite, ça marche un peu comme ça, tu sais, image, évocation, ben, tu sais, c'est sûr que des fois, il y a des shortcuts. Fait, moi, l'important, c'était que, d'abord que mes contributeurs se sentent respectés dans la représentation, ce qui n'était pas facile non plus, tu sais, parce que eux, ils m'avaient tous connue comme une anthropologue. Puis, du jour au lendemain, je demande est-ce que je peux dessiner pour me mettre dans une bande dessinée. Puis, il y a plusieurs d'entre eux qui lisaient pas vraiment de la bande dessinée. Fait que la première image que tu as, c'est la bande dessinée, comme on a connu, c'est la représentation des Autochtones dans la bande dessinée. On peut pas dire que c'est une histoire de respect historiquement. Ça change beaucoup, là. Mais ça, c'était quand même. C'était quand même pour moi un défi, là, de réussir qu'on puisse les reconnaître, mais. Tu sais, comme pour quelqu'un qui n'est pas vraiment un dessinateur non plus, mais qui soit à l'aise avec ça, puis tout ça. Fait que, tu sais, comme c'était plus ça que la création de. C'était vraiment un langage, en fait.
Oui, puis en fait, quand vous dessinez ou dans les portraits qui sont offerts, parce que dans le fond, la structure de l'album, d'un point de vue, si on y va avec le visuel, il y a évidemment des textes, une base, cette assise-là qui est très présente, il y a des portraits. Donc, des nombreux intervenants que vous rencontrez. Après ça, il y a des sections qui sont plus BD classiques, un peu dans une approche documentaire, donc avec narration mise en contexte. Il y a des dessins plus de type illustration. Il y en a qui vont vers une certaine abstraction, j'ai envie de dire. Et tout ça vient construire, dans le fond, une ambiance aussi, d'un côté un peu journal de bord, j'ai l'impression.
Oui, tout à fait.
Donc, il crée aussi un rythme de lecture qui est intéressant, parce qu'on n'est pas toujours dans la rencontre, on est dans une mise en perspective. Donc, il y a un plaisir aussi, j'imagine, à varier les approches visuelles, les approches narratives, dans le fond, à l'intérieur de ça.
Ah oui, tout à fait. C'est intéressant qu'on en parle. Mais c'est bien qu'on fait des entrevues clairement BD, parce qu'on peut parler de la forme aussi. Mais effectivement, l'idée, c'est que ça chevauche, d'une part, un aspect qui est plus journal, tu sais, là, donc plus réflexif, plus intime, mettons, du côté de mon expérience, où là, les dessins, ça peut aller, tu sais, on fait du journal, on dessine. On n'a pas une ligne à suivre, on dessine comme on veut, c'est plus libre expression et plus, tu sais, des aspects plus dérisoires ou caricaturales quand ça me concerne, tu sais, comme quand je dessine moi-même, par exemple, tu sais, avec le mythe familial de la grand-mère autochtone, tout ça, tu sais, comme je peux me permettre, tu sais, que ça soit un peu, justement, poussé à la caricature parce que c'est mon histoire, fait que je me sens très, très à l'aise de le faire. Après ça, à travers les entrevues, c'est ça, un dessin qui me semble qui est plus balisé, tu sais, dans l'idée que c'est un portrait. La question des évocations, c'est l'évocation plus abstraite, c'est intéressant parce qu'à la base, c'est un exercice que j'avais fait avant de commencer. Quand je disais que j'avais commencé le cinquième chapitre, qui était plus la vulgarisation graphique, puis là, je voulais aller dans un côté plus réflexif, j'étais convaincue de ça, puis j'étais aussi encouragée par plusieurs leaders, auteurs autochtones qui demandaient finalement aux personnes allochtones de regarder leur propre côté de l'histoire. Puis d'ailleurs, j'en cite plusieurs dans la bande dessinée. Mais je savais comme pas trop comment m'y prendre. Tu sais, fait que je m'étais mis à faire un exercice que j'avais fait quand je travaillais en Nouvelle-Zélande, que je faisais souvent à partir de tâches aléatoires. Tu sais, comme j'avais un cahier. À l'époque, en Nouvelle-Zélande, j'utilisais de la gouache, puis je faisais des tâches, puis j'essayais de voir qu'est-ce que je vois dans les images, puis je dessinais, puis ça me détendait beaucoup parce qu'il n'y avait pas le souci de performance dans le dessin, puis tout ça. Puis en repensant justement à la Nouvelle-Zélande, à travers l'évocation de quelques chapitres dans la bande dessinée, je me suis rappelé cet exercice-là, puis je me suis dit, ah, je pourrais commencer comme ça, je pourrais me faire des tâches, mais en me donnant cette fois-ci la simple thématique de l'éducation autochtone, c'est de ça que je veux parler. Fait que je me suis mis, mais là, j'avais pas de la gouache, mais j'avais de l'encre de chine. J'ai mis de l'encre de chine un peu n'importe comment. Puis là, j'ai fait, ça se voulait juste un exercice pour délier le dessin, tu sais, de voir qu'est-ce que je vois apparaître à travers cette tâche-là. Puis à la fin de l'exercice, j'étais quand même surprise de la journée de voir que ça me donnait des images assez sombres, tu sais, assez lugubres. Parce que c'est sûr que, évidemment, tu sais, j'avais fait des recherches sur les pensionnats autochtones, puis tout ça, puis tu sais, je sais les défis, je travaillais là-dedans depuis 5 ans. Mais moi, j'ai travaillé beaucoup plus du côté de l'espoir, tu sais, du côté avec l'institution Kiuna, avec les services aux étudiants autochtones, avec les réussites des étudiants autochtones. Fait que j'étais quand même surprise de voir que sous cette thématique-là, j'avais des dessins assez durs. Puis, quand j'ai commencé les entrevues de recherche avec les différents contributeurs, je ne sais pas comment, mais la première fois, il y a quelqu'un qui a aperçu ce dessin-là, puis qui avait beaucoup de choses à dire. Puis je me rendais compte que les contributeurs autochtones accrochaient beaucoup sur ce dessin-là, puis qu'ils voyaient des choses différentes de moi. Moi, je voyais beaucoup les oblats, les pensionnats, les soutanes. Bizarrement, la plupart d'entre eux ne voyaient pas ça. Une de mes des bonnes amies, celle qui était à l'origine de la citation du titre de C'est Québec qui est dans mon pays, Anna Mapache, elle la voyait, c'est quelqu'un qui a passé beaucoup de temps dans le bois, qui a grandi beaucoup dans le bois avec sa famille. Puis elle la voyait des animaux à collet. Je trouvais ça vraiment intéressant. Puis là, j'ai décidé finalement de les intégrer dans la bande dessinée. C'est pas juste les garder en exercice parce que je me disais, ce qui est bien avec ces images-là qu'on met en introduction, puis après ça, il y a des rappels dans la bande dessinée, c'est que dès le départ, on essaie que le lecteur soit un petit peu mis devant une sorte de flou cognitif. Comme on voit ces images-là, puis on ne sait pas trop c'est quoi. Donc, c'est que ça crée comme une sorte d'insécurité, là, encore là, c'est très légère, là, on s'entend. Mais juste pour que le rationnel fasse la place un petit peu plus à l'émotionnel, tu sais, que le rationnel soit plus trop ce qu'il est, tu sais, pour que les barrières se baissent un petit peu, tu sais. Fait que c'était l'idée un petit peu du rabbit hole, tu sais, en entrée de bande dessinée, de, tu sais, qu'on, là, tu sais, ça suit la citation qu'on se fait dire, pourquoi vous cherchez pas de votre propre côté de l'histoire, tu sais, une citation de Jesse Wente, qui est maintenant devenu, entre-temps, le directeur des Conseils des arts du Canada, qui propose, tu sais, si les personnes, les artistes autochtones veulent faire des travaux sur les pensionnats, c'est pas vraiment à vous de raconter l'histoire du survivant, mais vous avez votre côté de l'histoire à surveiller. Fait qu'ensuite, fait que là, donc, ça propose d'aller fouiller à l'intérieur de soi, puis ces images-là ont été intégrées un petit peu pour, justement, dans une sorte du trou du lapin, là, tu sais, de plonger dans notre...
J'aime beaucoup l'image, Emmanuel Dufour, que vous amenez sur le fait que ça nous prépare au fait que ce n'est pas juste l'esprit puis l'analyse, l'esprit d'analyse qui va être sollicité, mais qu'il y a un aspect émotionnel, qu'il y a un aspect de laisser aller, de s'imprégner des émotions qui sont portées par les mots qui sont mis de l'avant et par les personnes que vous rencontrez, pas seulement l'aspect plus, entre guillemets, philosophique, ethnologique, anthropologique du discours non plus,
Non,
qui
exactement.
joue à plusieurs niveaux.
Oui, c'est justement ce que des fois, moi, j'aimerais qu'on... Ben, pas juste moi. Je pense que ce qui nous est demandé souvent, c'est ça. C'est pas juste d'apprendre sur les Premières Nations. T'sais, c'est pas juste d'avoir ton tableau comparatif algonquin, iroquoien, les modes. Ça, c'est du factuel ethnographique, mais c'est externe à soi. Puis, si on veut aller dans une démarche de rencontre, comme vous disiez tout à l'heure, c'est pas juste de rencontrer les éléments factuels, intellectuels qui décrivent une culture, c'est d'aller à la rencontre de soi-même, de même passer par un processus de guérison de soi-même, individuel et collectif, tu sais, par rapport, on a tous, je pense, évidemment à différents degrés, à différentes proportions, tout ça, mais on est tous perdants dans ce régime colonial-là. Évidemment, il y en a d'autres, il y en a certains et certaines qui ont beaucoup plus souffert que d'autres, là, dans ce rapport de pouvoir-là, puis tout ça. Mais le fait qu'on a été empêché de rencontre, au niveau citoyen, pendant de si longues années, qu'on a été que tous les apprentissages et les enseignements ou le transfert de connaissances qu'on aurait pu avoir depuis notre arrivée ici sur comment bien vivre sur ce territoire, en tout cas, c'est une tragédie à plusieurs niveaux, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a tous besoin, je pense, de guérir, puis de passer à autre chose, puis de s'ouvrir. Donc, ça passe pas par la tête.
Et les personnages, en fait, la galerie de portraits, dans le fond, qu'on retrouve aussi dans l'album, j'ai l'impression que ça vient appuyer ça. D'un côté, ça nous permet de voir à travers vos yeux ces personnes-là que vous rencontrez, parce que le dessin reste une interprétation. Et ça nous permet aussi de garder les interlocuteurs présents, que ce soit pas juste un nom puis une citation. Donc, d'éviter aussi de tomber dans, entre guillemets, des pièges académiques où on se retrouve avec une personne qui est abstraite, au bout du compte. Donc, je trouve que ça les concrétise, ces personnes-là.
Oui, tout à fait. Puis ça, c'est vrai aussi c'est un peu ce que j'explique au niveau du système d'éducation. Tu sais, on l'a tous vu, le fameux tableau algonquin iroquoien, hein? Mais c'était tellement désincarné, il n'y avait tellement pas d'être humain attaché. On envoyait des vieilles peintures de l'ancien temps de loin, tu sais, d'un autochtone cristallisé dans le passé. On voyait des facteurs, mais il manquait la dimension humaine, la représentation humaine. Puis, tu sais, on le sait, même dans les stratégies génocidaires ou bien, tu sais, même dans le passé, la déshumanisation, c'est une stratégie aussi, tu sais, de faire perdre le fil rationnel entre l'événement et les êtres humains qui composent un événement ou un groupe. Ça fait partie du problème, tu sais. Donc, c'est tout à fait juste ce que vous dites. L'idée, c'est aussi qu'on les voit, qu'on les entend et qu'on voit aussi la grande variabilité. Tu sais, comme les Autochtones, c'est pas un bloc monolithique de gens qui se ressemblent, qui sont tous pareils, qui parlent la même langue, qui ont une culture. Tu sais, on entend souvent ça, la culture autochtone, mais il n'y a pas...
C'est important d'avoir un récit choral parce que d'avoir une multiplicité de voix, parce que chacun est une voix autochtone. Puis je pense que c'est juste, effectivement, il n'y a pas... c'est pas un monolithe. Il faut que ça soit clair dans la manière dont on aborde la chose.
Oui, c'est ça. Puis il y a différentes façons d'être... Il y a différentes origines, il y a différentes façons de vivre son autochtonie, il y a différentes nations, donc différentes communautés, différents individus, différents... T'sais. Puis ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui nous est souvent demandé dans la représentation, là, de défaire ce préjugé-là. Puis ça fait aussi souvent qu'on va entendre, par exemple, des Québécois dire « Ouais, mais les Autochtones ne s'entendent pas entre eux. » comme si les Québécois s'entendaient entre eux, mais comme si c'était une gang comme de gens tous pareils. Ça aussi, je trouve, c'est la déshumanisation. C'est comme d'extraire le particularisme de chacune des nations, de chacun des individus, les parcours de vie, puis tout ça. Fait que ça, c'était aussi important, c'est ça, qu'on voit comme... Puis en fait, ça s'est fait un petit peu de façon organique, parce que j'avais pas de plan prédéfini. Ça s'est vraiment fait vraiment un processus inductif puis intuitif, mais au bout du compte, ça représente... Comme je travaille depuis Montréal, puis c'est ça, puis j'ai travaillé avec Kimna, fait que c'est beaucoup des regroupements de plusieurs nations. Ça aurait été différent si ça avait été basé dans une communauté. Mais...
Oui, puis j'ai l'impression, en fait, aussi qu'à un certain point, c'est votre bagage de recherche aussi qui vient vous appuyer là-dedans, parce que je regardais l'album et je me disais, mon Dieu, c'est bon, ça donne un album de 200 pages, mais il y a beaucoup de documentation, il y a beaucoup d'informations, il y a une muséographie sur laquelle vous basez, les rencontres. Et à un moment donné, ben, comment réussir à s'organiser? Moi, je me disais, mon Dieu, c'est ce que c'est un appartement plein de feuilles pour essayer de cadrer. Et en même temps, là, quand on se dit, ben oui, mais au moins vous avez le bagage d'anthropologue, vous avez le bagage justement d'avoir cheminé un peu sur ces questions-là. Donc, ça vous donne une position plus facile peut-être au démarrage pour réussir à organiser cette pensée-là par après puis de l'amener en narration.
Oui, tout à fait. Puis, tu sais, je parlais avec quelqu'un qui faisait un doctorat, puis que, tu sais, un doctorat, c'est toujours un peu difficile, tu sais, l'organisation des idées, beaucoup de matière, puis qui me disait, aïe, ça devait être tellement difficile en plus d'avoir les... Mais moi, c'était pas du en plus, c'était une... Parce que l'idée, tu sais, dans la recherche-création, il y a plusieurs types, il y a la représentation créative de la recherche, il y a la recherche pour la création, il y a la création pour la recherche, mais il y a la recherche, la création en tant que recherche. Puis, donc, fait que ça n'a pas été un en plus, ça a été un central à la recherche. Fait que la recherche, c'est tout articulé autour de cette bande dessinée-là, dans un processus, justement, d'étape en étape ou de. Fait que ça n'a pas été. En fait, ça a été pour moi plus facile que le travail fait à la maîtrise parce que c'était relationnel d'abord, je ne me sentais pas seule là-dedans. Et donc, toutes les interactions de chacun donnait forme, tu sais, la bande dessinée, les pages, l'ordre des pages, la classification a changé souvent, mais ça changeait tout le temps en fonction de quand je rencontrais quelqu'un d'autre qui apportait un nouveau récit, qui faisait écho à tel souvenir, ou bien que, justement, par exemple, à mon amie Anna, en regardant les pages, voit une image de mon passé, puis réagit à cette page-là, bien évidemment, ce qu'elle va dire, ça va être inclus là. T'sais, donc, ça s'est tellement fait, c'est pour ça que co-création, fait que c'était pas un. Je n'étais pas tout seul avec plein de papiers, puis de, tu sais, comme je l'avais été à la maîtrise, même malgré que la maîtrise avait été avec l'Institut Climat puis plein d'étudiants. Là, c'était vraiment un processus, comme vous dites, choral avec plein de points d'entrée. Puis l'ordre, comme ce n'était pas un processus linéaire, tu sais, la bande dessinée pourrait être encore remaniée de tellement de façons. L'ordre pourrait encore changer, puis le message serait le même. Fait que je n'avais pas un stress de la même façon que quand tu essaies de faire une thèse, puis il faut vraiment que tu partes d'un point puis tu amènes ton lecteur de façon cohérente à l'autre parce que c'est un processus linéaire. Là, c'est ça, c'était plus comme une conversation, une danse. Fait que ça aurait pu être de mille autres façons, tu sais, puis ça aurait été correct aussi, puis on serait arrivé au même point.
Et à travers cet album-là, et là je le prends pour moi peut-être un peu là-dessus, mais c'est le Québec qui est né dans mon pays. L'expérience que j'ai reçue en lisant ça, c'est pas nécessairement un récit qui dit qu'il faut se culpabiliser ou qu'il faut se replier dans le fatalisme. On l'évite, ça, et à la limite, on est plus dans une logique de reconnaissance, dans une volonté de guérir, dans une volonté de reconstruire cette relation-là ou de la construire tout court, là, à la limite.
Tout à fait. Puis ça, c'est vraiment important. L'idée, ce n'est pas d'encourager la culpabilité, ni la honte, ni pas du tout, mais comme elle existe, faisons quelque chose, observons-la, parlons-en, puis pour pouvoir passer à autre chose, puis se mettre en action. T'sais, parce qu'on sait que le problème avec la honte coloniale, ça peut très facilement tomber dans le repli. Oh, on est tanné d'entendre parler, ça reste toujours notre faute, puis eux. J'ai même une citation justement d'un animateur de radio de. Je sais pas si c'est qui est à Québec, en fait. Oui, je pense qu'il est à Québec.
C'est possible.
Qui est comme bon, est-ce qu'ils vont s'excuser eux autres aussi? Fait que je pense que si tout ce qu'on laisse pourrir et qu'on essaie de cacher, j'ai honte, mais j'en parlerai pas trop, je vais faire comme sinon. Puis moi, c'était quelque chose, moi aussi, c'est ça que j'ai écrit à la fin de la bande dessinée. T'sais, au cours de mes 5 premières années que je travaillais, puis tu sais, j'ai fait ma maîtrise là-dessus, mais je travaillais aussi dans ce domaine-là. Donc, j'étais toujours là-dedans, toujours avec. Fait qu'évidemment, je me suis fait plein d'amis, plein de connaissances, plein de. Mais je ressentais toujours quand même une sorte de malaise en tant qu'alloctone de travailler dans ce milieu-là. De parler à la place d'eux, même si j'essaie de le faire le moins possible. Mais puis même de. Une sorte de, il y avait quelque chose qui me dérangeait, mais puis ça faisait longtemps que je voulais commencer à travailler là-dessus pour essayer d'en finir avec ce malaise-là, parce que je savais que ça, c'était des fois incapacitant et même malaisant. Tu sais, quand tu es mal à l'aise, c'est malaisant pour l'autre aussi. Hein, fait que je voulais en faire quelque chose, puis c'est drôle parce que ma première publication, comme dans une revue scientifique ou bien revue par les pairs, parle de ça, c'est une note de lecture qui parle des racines éducationnelles de l'indifférence, puis je parle de la méconnaissance, puis des pourquoi on connaît si peu, puis du malaise. Mais à part ça, dans le domaine académique, je n'avais pas trouvé d'espace sécuritaire pour pouvoir travailler vraiment sur ça. Puis ça a donné, fait que ça a comme fait une loupe. Tu sais, c'était comme en 2013, j'écrivais sur ça, puis quand j'ai commencé, non, 2013. Oui, je pense. Puis quand j'ai commencé mon doctorat, ben j'en suis revenue à ça. Fait que ça montrait qu'il y avait vraiment un besoin là aussi. Puis à ce que j'entends quand je fais des conférences ou je rencontre les gens, ben il y a plusieurs personnes qui se reconnaissent là-dedans qui sont comme « Ah, tu sais, ça fait comme du bien qu'on en parle ensemble pour arrêter. Sors-le ce que tu as ce qu'on a tapis au fond de nous pour faire comme si rien n'était. Fait qu'on va éviter parce que personne n'aime ça. » Malaisé, tu sais, le malaise peut être aussi une source d'éducation. Tu sais, on peut en faire quelque chose, mais il faut le reconnaître, comme tu dis, c'est comme vous dites.
Et en fait, je pense qu'on comprend bien que cet album-là, ben, d'un côté, il est à lire, évidemment, et ça peut servir de belle pierre d'assise, justement, pour enrichir notre réflexion individuelle et nos réflexions collectives autour de ça et notre action, je pense aussi. Donc, je rappelle, ça s'appelle « C'est le Québec qui est né dans mon pays », c'est des manuels de Dufour et c'est chez Éco-Société. Emmanuel Dufour, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Toujours dans le cadre de la vie en BD, on plonge maintenant vers cet album, donc Vinyasa Ninja, le pouvoir du yoga. Un album, un guide, un mentor presque, enfin un album multifonction et aussi un peu un ovni littéraire. Donc, on avait envie de vous parler assez rapidement puisqu'il est sur les tablettes de vos libraires depuis peu. Alors, pour en discuter avec nous, eh bien, on a le scénariste et le dessinateur, donc Olivier Hamel, bonjour.
Bonjour, enchanté.
Olivier Carpentier, bonjour.
Bonjour Raymond.
Alors, d'entrée de jeu, justement, je parle d'un ovni. Je pense qu'il faut le détailler. En fait, on est dans un objet assez particulier dans lequel on suit un groupe de jeunes ninjas qui vont eux-mêmes suivre un enseignement pour développer leur pouvoir autour du yoga.
Exactement.
Tout à fait. Qu'est-ce qui a amené vers cette voie-là, vers ce type de récit-là au départ?
Si je peux me permettre, à titre de scénariste, c'est une démarche que j'ai entreprise suite à une espèce de coup de génie. Je pense que j'étais soit dans ma douche ou en train de faire du yoga et j'ai comme une illumination, puis je me suis dit je vais me lancer. Mais un peu plus sérieusement, je dirais que pour vrai, c'est survenu suite à des demandes que j'avais eues du Salon du Livre de Montréal pour organiser des activités autour du yoga pour les jeunes garçons. Puis j'avais eu plusieurs demandes de dire, parce que je suis bibliothécaire scolaire, si vous ne le savez pas, je travaille à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. J'avais eu plusieurs demandes de direction et d'enseignantes qui me demandaient de développer une activité qui allait amener à développer la concentration puis un peu le calme chez les enfants. Au départ, j'avais développé une courte activité qui s'appelait le yoga des mini-ninjas, dans lequel j'introduisais là, des concepts de yoga très simples, avec certaines positions, puis ça emballait les jeunes, mais j'avais toujours un problème à la fin de l'activité, puisque, à titre de bibliothécaire, je voulais absolument lire une histoire. Et j'ai fait une grosse bibliographie autour des livres de yoga. Ils sont fantastiques, il en existe plusieurs, mais j'étais toujours un peu déçu. Je trouvais qu'il manquait un côté guerrier un peu au livre de yoga que je consultais, puis j'avais l'impression que ça rejoignait mal les jeunes garçons. Autrement dit, quand je faisais l'activité, puis que je montrais des positions, j'avais l'intérêt complet et absolu des jeunes. Ils voulaient tester, même au secondaire, ils faisaient des positions, etc. Mais dès que je voulais lire l'histoire, ben là, je me retrouvais dans un monde de fleurs, d'oursons, de toutes ces créatures-là. Et souvent, les positions étaient mal montrées dans les ouvrages et de plus, ben, je perdais complètement l'attention des jeunes garçons. Suite à ça, j'ai fait l'activité à quelques reprises. Puis là, c'est vraiment là où à un moment, je me suis dit, OK, là, j'essaie de lire des histoires, ça ne fonctionne pas. Pourquoi j'en inventerais tout simplement pas une? Et au départ, ben, j'avais pensé à un flow, le flow des mini ninjas, puis c'est là que l'illumination est arrivée un peu plus, là. Au sortir de ma douche ou d'une session de yoga, je me suis mis à écrire ça, puis j'ai pondu le flow là, en quelques heures. Pas l'essentiel du livre, mais si vous l'avez lu, là, le moment où le flow débute, ça, je l'ai écrit. J'ai été contacté avec mon ordinateur, j'ai monté un petit dossier. Puis je tiens à préciser que dès le départ, j'étais fasciné par les illustrations d'Olivier Carpentier parce qu'il faisait Inktober et il faisait des hommages à Naruto. Et je le disais à d'autres scénaristes, ce gars-là, il dessine, c'est un de nos rares dessinateurs qui fait un dessin de type manga aussi cool. Je trouvais vraiment ces hommages intéressants, ça m'avait capté. Puis Olivier, je le suivais déjà depuis des années avec Far Out, puis même des illustrations qu'il avait faites pour des albums jeunesse à l'époque que j'avais plus ou moins subtilisé à certaines bibliothèques pour. Et bref, ben, j'ai été voir j'ai contacté deux maisons d'édition, dont Presse Aventure, parce que je connais bien un peu les maisons d'édition. Je travaille souvent dans les salons du livre, etc. Puis ils me connaissent bien. Puis c'est sûr que Marie-Ève Labelle de chez Presse Aventure, quand je lui ai proposé le projet, c'est assez fabuleux, là, mais j'avais rien, là. J'avais même pas encore de scénario. En fait, je savais même pas comment faire. Puis c'est Olivier qui m'a appris. Et ben, c'est ça, je lui ai proposé le pitch, je lui ai montré des illustrations, j'avais monté un petit truc, puis tout de suite, elle a été emballée. Donc, on est parti dans l'aventure de Vignacia Ninja, mais ça a évolué, là. Au départ, ça ressemblait plus à un album. Ensuite, on est allé vers la BD, puis c'est devenu Vignacia Ninja, ce que vous voyez en ce moment.
Oui, parce que dans le fond, c'est vraiment de développer de l'idée, de savoir, de trouver la façon de l'asseoir sur la page dans le contexte d'un récit où il y a des moments qui sont plus BD, où il y a des moments, justement, on est vraiment en voix off avec une action qui se développe plus à travers le visuel. Puis après ça, éventuellement, on passe à plus un guide d'entraînement avec des outils, revision des positions. Donc, j'imagine qu'il a fallu réussir à trouver comment doser, comment l'organiser, comment concrétiser, dans le fond, cette idée-là. Et Olivier Hamel, vous l'avez dit, dans le fond, il y a Olivier Carpentier qui est arrivé aussi dans le projet. Et là, à deux, vous avez justement réussi à trouver le comment, dans le fond.
C'était de trouver aussi un bon équilibre, t'sais, entre le flow de yoga, donc l'ensemble des positions une à la suite de l'autre, puis de comment accrocher un narratif à ça. Donc, Olivier avait déjà écrit une mise en scène justement avec les ninjas qui se préparaient à s'entraîner. Puis finalement, ensemble, puis avec notre éditeur, notre éditrice, puis aussi Catherine, notre correctrice, on a ajouté un peu plus de narratif là, que ce qui était prévu au départ. Donc, comme Olivier a dit, là, c'était plus vu comme un album. Puis l'intro en BD a pris plus de place là, pour justement bien ancrer, bien poser un peu l'action. Tu sais, c'est qui ces personnages-là? Quelle personnalité qu'ils ont? Parce que nous, dans notre tête, évidemment, tu sais, on s'en parlait, puis chaque personnage, chaque jeune ninja avait une personnalité différente. Mais ce n'était pas tant si explicitement montré que ça. Donc, ça, on a travaillé beaucoup là, à ce niveau-là. Puis je pense que ça vaut la peine, tu sais, de faire des personnages, tu sais, qui sont attachants puis qui ont des traits de personnalité auxquels les jeunes peuvent s'identifier aussi. Là.
Ça, rapidement se rattacher dans les premières pages, genre, OK, moi c'est un tel, moi c'est un tel. On a assez d'éléments pour comprendre un peu qui ils sont. Puis après ça, ben, dans le fond, quand ils vont arriver dans la partie active, ben, dans le flow, ben, ils vont continuer avec cette identification-là, dans le fond. Puis j'imagine que dans un contexte aussi où on aborde le livre, parce que pour moi, c'est un livre qu'on va lire, mais c'est un livre qu'on va faire, dans le fond. C'est pas un livre qu'on prend pour lire sur une table avec un verre de lait. L'idée puis l'objectif du livre, c'est vraiment que le parent, l'enfant ou le jeune lui-même, ben, dans le fond, fasse le flow lui-même, fasse le flow, monte son flow après ça à lui. Donc, j'imagine qu'on n'est pas un peu dans la même perspective comparativement à une BD classique qui vise simplement à créer une expérience de lecture.
Tout à fait. Moi, mon but premier, c'était de transmettre ma passion pour le yoga, puis de réussir à travers le fil narratif à amener les jeunes vraiment, comme vous l'avez dit, là, à pratiquer le yoga à la maison. Je ne m'en cacherai pas. Mon objectif premier, et là, je vais y aller en faisant attention à ce que je vais dire, mais c'était, je savais que plusieurs personnes, je viens de Montréal, tout le monde fait du yoga, c'est très trendy, c'est branché, etc. Combien de mamans le pratiquent, combien de jeunes étudiants, combien de... le yoga, là, on ne se le cachera pas, c'est un univers qui est un peu plus féminin que masculin. Là. C'est 70% ou quelque chose comme ça de pratiquants qui sont des femmes. Et moi, je voulais montrer que, ben, comme elles, d'ailleurs, quand moi je pratique mon yoga, comme plusieurs d'entre elles, je me sens comme un guerrier. Je ne me sens pas comme autre chose. C'était le but, c'était de réussir à transmettre ça. Et je savais que les parents avaient... Moi, je suis moi-même papa de deux jeunes filles. Puis je savais que c'était difficile de transmettre la passion du yoga aux enfants dans un cadre adulte comme on le pratique normalement. Fait que ça me prenait quelque chose de ninja. C'est là qu'est venu
qui a dirigé la mise en scène de tout ça aussi, la mise en place. Mais je reviens à la question de départ, dans le fond, de planifier un livre pour l'expérience de lecture, plutôt, mais là, on n'est pas vraiment dans un guide non plus. On ne veut pas que ça soit juste un guide parce qu'on veut stimuler cet imaginaire-là. Est-ce que ça a été difficile de la trouver, justement, cette bonne approche-là? Parce que pour moi, ce n'est pas le genre de récit ou de livre qu'on retrouve souvent dans le panorama BD. Là.
Olivier?
Oui, ça. Puis, tu sais, même encore, des fois, on a de la misère à voir où est-ce qu'il se classe, ce livre-là. Tu sais, je sais qu'il y a des chaînes de librairies auxquelles notre éditrice a pitché autant chez l'acheteur de livres, d'albums jeunesse que chez l'acheteur bande dessinée. Finalement, il est allé du côté BD. Puis on va voir comment il va vivre. Peut-être qu'on se réajustera. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est pas pareil comme écrire une intrigue qu'il faut qu'il punche à la fin. Évidemment, on essaie d'avoir un narratif conducteur. On termine à la fin avec une espèce de zoom-in sur une forteresse dans laquelle il y a des samouraïs. Puis ça, ben, ça va devenir notre tome 2, nos personnages qu'on va suivre. Pour le tome 2, puis pour le tome 3, ben, Oli est déjà en train de penser à comment mixer nos ninjas, nos samouraïs. On ne veut pas trop en révéler, on va commencer par finir le tome 2, mais c'est sûr que c'est pas la même approche, c'est plus déconstruit aussi. Tu sais, pour moi, comme dessinateur, c'est sûr que quand je fais un album, tu sais, en général, je vais vraiment le faire en ordre, page 1 jusqu'à la page 50, 60. Tu sais, tout mon crayonné, mon ancrage, ma couleur, etc. Des fois, je vais le faire en batch. Mais là, vu que même physiquement, l'objet est moins en continu, si je peux dire comme ça, des fois, ben, je dis, OK, là, je suis tanné de faire des cases où je vais aller travailler sur le flow. Fait que là, tu sais, je dessinais des petits bonhommes en position de yoga. Je changeais le style aussi, tu sais, à la fin dans ce qu'on appelle les carnets ninja, qui est un résumé de notre flow de yoga. Puis on explique aussi c'était quoi les ninjas pour le vrai. Le yoga, ça vient d'où. Mais je me suis même permis de changer le style. Tu sais, les bonhommes sont plus schématisés, plus kawaii, là, pour reprendre là, les termes. Donc pour moi, c'était vraiment un autre état d'esprit. Tu sais, c'était très découpé en sections dans lesquelles je pouvais passer d'une à l'autre quand je voulais changer un peu le mal de place, là, mettons.
Et ça veut dire que le flow aussi est guidé justement par des positions, par une approche méditative. Donc, il faut qu'il y ait une adéquation entre Olivier Hamel, le parcours qu'on veut faire et l'imaginaire dans lequel, visuellement, à travers le travail d'Olivier Carpentier, on va l'intégrer. Donc, puis il faut physiologiquement aussi que ça se tienne. Si on critiquait tantôt justement les illustrations de yoga, puis que c'est pas toujours bien schématisé, ben il y a une notion de physicalité dans cet album-là qu'il faut retrouver aussi adéquatement.
Tout à fait. Vas-y, je te laisse.
Je, là-dessus, il a fallu que je m'appuie aussi beaucoup sur Olivier. Moi, j'ai commencé un petit peu le yoga par la suite, puis j'aime ça, ça me fait du bien. Mais c'est vraiment pas un univers que je connais. Fait qu'évidemment, tu sais, je cherche des références sur Internet, mais des fois, il y a quatre variantes d'une position. Des fois, ben, le terme en français, en anglais, en sanskrit, ça va changer. Donc, c'est sûr que il y avait une plus grosse rétroaction, je dirais, que quand je fais un album plus conventionnel, là, tu sais, c'est l'auteur devait être très, très au fait, justement, là, de certains détails dans les dessins. OK, non, le pied, finalement, il faudrait qu'il y ait un angle un peu plus prononcé, ou non, là, le talon, il faudrait qu'il soit à terre. Fait que ça aussi, c'était différent pour moi, là.
Puis, ce que je trouve intéressant là-dedans, parce que, tu sais, dans le fond, tout ce qui est développé, je pense que Olivier Hamel l'a dit tantôt, c'est on a été faire des ateliers scolaires avant le projet de livre, tu as essayé de tester les approches. Donc, j'imagine que quand tu en es arrivé avec les constats qui sont mis de l'avant dans Vinyasa Ninja, ben, c'est aussi parce que tu savais justement, bon, OK, la variante de la position qui marche avec un public plus jeune, ça va être ça. Tel élément, ça marchait, tel autre élément. Donc, tu avais déjà un peu fait des focus group avant de développer le projet de livre, dans le fond.
Tout à fait, mais ça ne m'a pas empêché de quand même proposer un flow qui était un peu plus épicé, je dirais, que ce qu'on propose généralement aux jeunes. Il y a quand même une position qui est un petit peu plus intense, le corbeau, notamment, là, qui est une position où on s'appuie sur les avant-bras puis on soulève les pieds du sol. Moi, par exemple, je me suis déjà fait un œil au bar noir en essayant de la faire directement devant le plancher. Mais je suis un adulte, là, je vous rassure, je suis un peu plus grand, donc le centre de gravité n'est pas le même. Quand on tombe, ça fait un peu plus mal. Mais je voyais que les jeunes avaient envie, quand je proposais les premiers flows, d'aller plus loin. Au secondaire, puis même au primaire, j'avais déjà des enfants qui voulaient faire des handstands, des positions sur les mains avec les pieds en l'air, etc. Fait que je voulais trouver l'équilibre entre un flow qui allait calmer, qui allait permettre aux élèves de mieux se concentrer, mais aussi quelque chose qui allait les challenger. Parce que moi, quand je fais du yoga, je me challenge énormément. J'aime ça aller chercher des positions extrêmes, mais en même temps, il y a quelque chose que je ne retrouve pas dans les autres sports que je pratique, cet état, il y a la sérotonine qui est dégagée, il y a un état de calme qui s'engendre. Donc, c'était vraiment ça que je voulais réussir à transmettre aux élèves, avec un visuel qui rappelait aux parents, notamment aux papas, la glorieuse époque des Dragon Ball classiques et autres. Fait que c'était vraiment important pour moi qu'on retrouve ça. Puis même dans la couverture, au début, j'étais très, très focalisé là, sur Dragon Ball parce que comme plusieurs papas de mon âge, je suis nostalgique. Là, je continue même de lire Dragon Ball Super. Donc, c'était ça qui était le plus important, c'était d'aller trouver l'équilibre. Puis je pense qu'on y est parvenu, mais comme Olivier l'a dit, il est certain que dans le tome 2 et dans le tome 3, voire plus tard, le côté narratif va prendre un peu plus tranquillement la place là, sur le côté yoga. Notamment, je réserve une belle surprise au lecteur au tome 3. Pour ceux qui aiment, je ne veux pas tout dévoiler, mais je peux quand même dire que pour ceux qui aiment les... Moi, j'ai toujours été fasciné par les maîtres dans les mangas, que ce soit Jiraiya, Tortue Géniale, etc. C'est mes personnages préférés. Même chose pour Street Fighter, qui est une autre grande influence chez moi, les dessins animés de Street Fighter des années 90. Et donc, je voulais vraiment qu'on retrouve la figure du maître. On la retrouve très bien avec Maître Atta, sa longue barbe, les anneaux, etc. Puis dans le tome 3, ben, il y aura une certaine confrontation. On va reculer dans le passé pour retracer l'histoire probablement des deux maîtres. Parce qu'il y a aussi un maître qui s'appelle Banda du côté des samouraïs. Fait qu'on va les voir se confronter probablement. Et tout ça va me permettre d'introduire un autre concept clé de l'univers du yoga et de la méditation.
Parce qu'à chaque fois, tu amènes un aspect différent du yoga aussi.
Tout à fait. Dans le tome 2, on va être plus dans un côté guerrier. Le tome 1, ben, comme beaucoup d'auteurs, là, je ne me le cacherai pas, le tome 1, même si je le trouve génial, j'ai cherché à le retravailler en quelque sorte dans le tome 2. Je pense qu'on souvent, on, les auteurs font ça avec le tome 2 est un peu plus... on a vu un peu ce qui a marché, ce qui a moins marché. C'est un peu plus brouillon, si je pense au premier Naruto, au premier Dragon Ball. Puis dans le tome 2 et les autres, surtout dans le tome 2, le flow est beaucoup plus guerrier puis cohérent. Il s'insère mieux, je pense, dans une trame narrative. Olivier peut confirmer, là, mais on est plus avec un maître, un disciple, plus guerrier, très martial dans l'esprit. Puis c'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup dans le yoga, puis dans les arts martiaux, parce que Olivier et moi, on est les deux d'anciens pratiquants des arts martiaux, si je peux dire ça. Moi, j'ai fait 50 boxe, Olivier a fait du kickboxing et d'autres sports, donc on veut aussi aller de ce côté-là.
Et puis, je pense en fait que tu as utilisé d'ailleurs le descriptif dans certaines entrevues, mais dans l'idée justement que le tome 1 est un peu aussi la séquence d'entraînement des héros, dans le fond, le moment qui aurait été un montage de quelques minutes dans le film.
Ouais.
Et finalement, là qu'on développe vraiment sur un album, puis qu'on prendre état, dans le fond, d'un côté de c'est quoi exactement cet entraînement-là, puis de l'autre, bien, tout l'état d'esprit puis l'imaginaire qu'on peut plaquer justement pour se monter des scénarios autour de cette séquence-là. Ben.
Je l'aurais pas mieux dit, et Olivier confirmera combien de films d'action on a regardé, combien de dessins animés, combien d'animes, ou et c'est, ça aussi, c'est une des clés pour comprendre mon œuvre, c'est que moi, j'ai eu une révélation avec Dragon Ball Super. Je m'en cacherai pas, là. On voit Sangoku réaliser un réflexe transcendantal. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, wow, on a un héros. On voit, par exemple, Vegeta, là, qui va devenir... Je ne veux pas vendre des scoops pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il va devenir plus ou moins gentil. Il va le faire comment? Pour essayer de dépasser toujours Sangoku, mais il va aller méditer sur une lointaine planète au sommet d'un pic aiguisé comme c'est pas possible. On le voit là en position de méditation. Et puis c'est ça qui va lui permettre d'acquérir ses pouvoirs. Puis j'ai fait une recherche exhaustive là, de tout ce qui se fait, de Shaman King à Dragon Ball, nommez-les. Et étonnamment, si vous prenez le temps de le relire, vous allez découvrir qu'il y a toujours ces notions de méditation puis d'entraînement méditatif. C'est ce qui permet aux grands guerriers de réussir à vaincre la peur, le blocage. C'est la même chose au niveau des... on peut écouter Georges St-Pierre en parler régulièrement. Il disait, avant chaque combat, il médite, puis il disait que c'est dans sa tête qu'il gagnait avant le combat, pas dans son corps. Donc, c'est vraiment cet esprit-là. Puis c'est vrai que dans les livres, c'est tout le temps résumé, là. Souvent, c'est... Si je prends Street Fighter, on va voir Ken et Ryu s'entraîner, méditer vite fait, mais moi, je voulais rentrer dans ça pour bien expliquer, OK, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils font réellement quand on les voit faire ça? C'est quoi le secret derrière ça? Puis c'est ce que je vais tenter avec Olivier de développer au fil des tombes.
Et sur le plan visuel, dans le fond, pour Olivier Carpentier, donc de ce que j'en comprends, le yoga, ça vient vraiment d'Olivier Hamel et tu t'es imprégné de cet univers-là à son contact, tu l'as adopté. Donc, il y a cet élément-là, un univers visuel, dans le fond, et codifié à s'approprier. En parallèle, côté BD, à tout le moins, on t'a vu on a mentionné Far Out, il y a d'autres albums, tu as un style de dessin qui le tien, qui est super beau, mais qui n'est pas nécessairement, en fait, tu n'étais pas l'auteur que j'associais au style manga. Et finalement, après ça, avec Vinyasa Ninja, c'est comme, OK, c'est comme si tu en avais tout le temps fait, finalement. Est-ce que c'est un peu une opportunité pour toi, justement, d'aller plus profondément dans ce style-là que tu faisais un peu en dilettante, ou il a fallu aussi à s'approprier les codes de ce champ visuel-là?
Oui, puis, tu sais, comme je dis souvent, là, j'ai moins dans les dernières années, mais j'ai donné beaucoup d'ateliers puis de cours de bande dessinée dans des polyvalentes, dans des cégeps aussi. Puis, tu sais, tu as tout le temps des élèves, tu sais, qui trippent manga, puis ils ne jurent que par ça, puis c'est ça qu'ils veulent faire, tu sais, puis je leur dis, ben, ça sera pas du manga, tu sais, faut que tu sois au Japon, que tu travailles 20 heures par jour avec 5 assistants, puis que tu dessines ça depuis que t'as 3 ans. Mais c'est très correct d'aller chercher ces influences-là, puis comme tu l'as dit, de t'es approprier, donc de pas essayer de copier, tu sais, je me suis pas mis à faire des personnages avec des gros yeux, tu sais, au contraire, je suis allé dans une autre place où j'étais pas dans mes albums précédents, puis c'était juste de faire des petits points pour les yeux, ça fonctionnait super bien. Par contre, tu sais, je me suis mis à utiliser des trames, un petit pointillé pour faire des illusions de tons gris, ce qui est très fréquent dans le manga, ce que je faisais pas non plus. Au niveau du format, ben tu sais, la couverture, comme Olivier a dit, là, Naruto Dragon Ball, là, prends les toutes, c'est souvent, ça va être dans un petit carré. Évidemment, le format n'est pas comme un format manga là, classique. Donc, c'était de garder mon dessin, de le simplifier un tout petit peu. puis d'utiliser, c'est ça, d'autres techniques, que ce soit les trames. Il y a plus de speedline en 30 pages que dans 200 pages de Far Out, mettons. des effets d'énergie. Puis,
Ah oui.
Donc, fait que c'est ça, c'était vraiment de ne pas essayer de copier le manga parce que j'y arriverais pas. Mais de m'approprier certains codes, certaines influences.
Donc, puis en assurant une souplesse dans le geste aussi, parce que, tu sais, je veux dire, tes personnages, c'est le mouvement qui est important au bout du compte, parce que c'est au-delà du narratif. Le narratif est là pour supporter le mouvement. Donc, il faut que les personnages soient aussi agiles, qu'il y ait une souplesse dans ton trait. Que...
Oui, puis ça, c'est un défi, tu sais, quand tu schématises, évidemment, l'anatomie du corps est modifiée un peu. Donc, tu sais, au niveau des articulations, tu sais, le coude n'arrive pas nécessairement sur un petit ninja schématisé que sur un humain qui a d'un dessin réaliste. Tu sais, même chose si on place le pied sur la jambe. Donc, c'est sûr que ça demande un peu plus d'exercice, tu sais, de dire, OK, mes personnages sont loin d'être réalistes, sont schématisés. Par contre, les positions, il faut qu'on les comprenne, il faut que ça reflète ce que ça doit être aussi. Fait que ça, ça restait un beau défi, là, particulièrement à la fin, dans le flow, où j'ai fait encore plus schématisé, plus kawaii. Donc, à ce niveau-là, c'était un bel exercice. Puis, tu sais, j'ai aussi, vu qu'il y a une certaine limitation, tu sais, à où je pouvais aller pour ce genre d'album-là, parce que ça prend une certaine précision anatomique, tu sais. Donc, j'aurais pas pu prendre d'Obélix puis y faire la planche, mettons, parce que anatomiquement, les jambes n'auraient pas touché à la terre ou des trucs comme ça. Fait que c'est sûr que je me suis amusé, mais tu sais, je pouvais pas aller dans de l'abusif anatomique puis que ça fonctionne encore.
Si je peux me permettre, là, on a eu des belles réflexions. J'ai bien aimé quand Olivier a parlé d'énergie, là, parce que c'est tout un défi. Moi, là, je voulais vraiment que les jeunes, quand ils se placent en position de méditation, ils sentent l'énergie. Là, on voit Maître Atta avec des flammes, puis on vous réserve des belles surprises dans le tome 2. Olivier, il a fait des trucs incroyables au niveau des représentations de l'énergie, là, notamment chez nos samouraïs. C'est encore mieux, je trouve. Il y a un côté plasma, là, quasiment tangible à l'énergie qui est dégagée par les sabres des samouraïs. Ça va être quelque chose.
Oui, puis en même temps, je trouve ça intéressant justement d'amener, parce que c'est pas évident de dire à un jeune, ben, tu sais, médite, qu'est-ce que tu cherches, qu'est-ce qu'il faut, mais tu sais, là, ça amène une visualisation. Dans le fond, ils peuvent s'imaginer justement l'énergie qui circule, mais à force de l'imaginer, mais je veux dire, tu médites, dans le fond, tu fixes sur une image, puis c'est...
C'est le but. Moi, je suis convaincu qu'on peut méditer en s'imaginant emmagasiner de l'énergie pour faire un kamehameha. Je suis persuadé que ça peut fonctionner, en tout cas, avec des plus jeunes.
Oui, ben en fait, c'est une porte d'entrée. T'sais, pour moi, c'est un album comme ça, c'est vraiment une porte d'entrée si on veut initier ou même s'initier plus largement. Parce que des fois, justement, je pense que vous disiez au départ, dans le fond, l'imaginaire qui est proposé ne convient pas, ne marche pas, on n'embarque pas, ben de proposer un autre cadre imaginaire, un autre cadre d'intégration. Puis après ça, ben, pourquoi pas se lancer.
Continuer à faire du yoga, tout à fait. C'est le but, là, vraiment.
Puis en dehors de la méditation puis de la concentration, tu sais, qui reste un des aspects importants du livre, puis je pense, tu sais, présentement, il y a un niveau d'anxiété globale là, assez élevé. Mais en dehors de ça, ça reste un bon entraînement physique aussi, tu sais. Puis ça, ben, des petits geeks, des petits introvertis, des fois, les attirer vers des sports, c'est pas tout le temps évident, mais là, tu les attires avec quelque chose qu'ils connaissent puis qu'ils aiment, qui est la bande dessinée, qui est le manga, puis ça reste un bon entraînement physique, tu sais, tant au niveau du tonus musculaire que de la souplesse. Donc ça aussi, c'est pas négligeable.
Puis Olivier Hamel le disait tantôt, en plus, c'est l'entraînement qu'ils font pour vrai dans les mangas.
Oui, c'est ce qu'ils font, c'est évident, Sangoku, puis Piccolo, puis tout le monde, voilà.
Et, au final, est-ce qu'on pourrait dire avec ça, puis là, je regarde plus Olivier Hamel, est-ce que c'est le genre d'ouvrage qu'on aurait aimé avoir plus jeune?
Ben moi, à la fin, j'ai écrit un petit texte qui définit un peu l'entreprise, puis je suis moi-même, je viens de Joliette, j'ai une petite ville assez rock'n'roll, j'ai été, dès mon plus jeune âge, hyperactif, j'ai été une des premières générations à prendre du Ritalin. j'ai redoublé, etc. C'est évident qu'un ouvrage comme ça m'aurait aidé quand j'étais plus jeune. Puis c'est presque un cadeau que je fais à moi-même lorsque j'étais petit en le réalisant, parce que c'est quelque chose dont j'aurais eu besoin, puis ça n'existait pas. Puis je voulais clairement trancher avec la vision qu'on se donne du yoga généralement, quelque chose d'un peu ésotérique. Je voulais vraiment quelque chose qui frappe fort, mais qui permette aussi de se concentrer et de se pratiquer. Puis c'est le but. Puis comme tu l'as dit en début d'entrevue, ça reste un ovni. Puis je pense que moi, puis Olivier, puis notre éditeur, on va devoir travailler fort pour qu'il trouve sa place. Ceci dit, les commentaires commencent déjà à arriver de parents. J'en ai eu, Olivier en a reçu lui aussi, de parents qui nous disent « Wow! » mon petit gars qui a de l'anxiété, qui n'arrive pas à se concentrer, je l'ai vu assis en position de méditation, il veut faire les mouvements. Donc, je pense qu'en travaillant fort, puis n'oublions pas que je suis aussi un peu pédagogue, parce que c'est pour les enseignants, c'est aussi un outil clé en main. S'ils sont capables de le voir, là, j'espère que plusieurs vont voir l'attrait qu'il peut avoir, mais tout est là, là. En classe, il suffit de l'ouvrir, d'afficher la belle affiche qui résume les positions, de coller ses collants de progression, puis on est parti là, pour devenir un véritable ultra-ninja.
Oui, c'est ça. Il y a un petit côté ludique justement à ça. Tu sais, à la fin, on a un poster détachable. D'un côté, tu as une illustration. De l'autre côté, c'est les positions. On a aussi des feuilles de collants. Tu sais, puis à chaque fois que tu fais le flow complet, tu colles un collant jusqu'à temps que tu sois un ultra-ninja. Donc, ce petit côté ludique-là aussi, je pense... va aider à faire embarquer les jeunes dans l'entraînement. Là.
C'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais je me suis vraiment vu là, un peu à la Cobra Kai. Il me semble que j'ai collé mon affiche sur le mur de ma chambre, faire mes positions, puis devenir plus fort, plus souple, etc. C'était vraiment ça le but aussi. Là. Cet esprit-là, je voulais qu'il soit présent dans le branche.
Olivier Hamel, Olivier Carpentier, merci beaucoup à vous deux. Et je rappelle, en fait, le livre s'appelle Vinyasa Ninja, le pouvoir du yoga. Donc, le premier tome, il y en a déjà deux autres qui sont en préparation. C'est chez Presse Aventure. Et je pense, en fait, qu'on a réussi à bien présenter ça. Et je l'espère surtout pour ceux et celles qui nous écoutent, à vous donner envie, justement, quand vous allez le croiser en librairie ou en bibliothèque, jetez un coup d'œil. Vraiment, c'est un ovni, mais un ovni qui mérite largement d'être découvert. Alors, merci à vous deux.
Merci.
Merci à toi, Raymond.
Au revoir.
On va y aller avec quelques petits commentaires BD pour clore cette édition. Alors, puisqu'on était un peu dans le jeunesse il y a quelques instants, restons-y brièvement. Mention, en fait, du premier tome de Home, Restez chez vous. Donc, nouvelle série scénarisée par Hervé Bourris, dessinée par Rudy Spiesser. C'est du côté des éditions Dupuis. Et vraiment, une série jeunesse, un premier tome qui est réussi, qui met en place les bases là, d'un univers qui est assez stimulant et avec beaucoup, beaucoup de possibilités. On sent en fait, parce que bon, le tome lui-même, c'est cette histoire d'à peu près 6 à 12 planches approximativement, dans lequel on nous présente un peu l'univers dans lequel la série se trouve, dans lequel on nous présente un peu la nature des personnages qui peuplent cette série-là, et également où on nous donne un avant-goût, un aperçu de la nature des aventures qu'on pourra voir, mais dans lequel aussi on sent qu'il y a des choses un peu plus complexes qu'on pourra développer, qu'on pourra explorer également, donc quelques mystères, quelques portes qu'on ouvre. Alors essentiellement, Home, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une espèce de robot intergalactique guerrier qui arrive sur Terre et qui essentiellement remplace la maison d'une famille. Et bien, la famille décide d'habiter dans ce robot-là. Et donc, au fil des courtes histoires, ils vont découvrir, dans le fond, les différentes pièces ou une partie de ces pièces-là. Ils vont découvrir une partie des possibles qui sont associés à ce robot-là. Et ils vont découvrir aussi une partie des créatures qui cherchent, eux aussi, à s'approprier ce robot-là. Évidemment, on ne nous dit pas exactement qu'est-ce qu'est le robot, d'où il vient, il reste. Ça rentre dans les portes qui s'ouvre, mais par contre, ce qu'on sait très bien dès le départ, c'est que c'est un a priori extrêmement stimulant pour une série à caractère humoristique, à caractère absurde. Donc, on va aller exploiter des situations qui sont assez surprenantes. Il y a beaucoup de liberté qui est laissée d'un point de vue scénaristique et tout ça dessiné de façon colorée, de façon expressive aussi, un peu schématique. Donc, vraiment, c'est agréable à voir. Ça roule bien côté lecture. Vraiment, en fait, si ce premier tome-là est annonciateur du reste de la série, eh bien, ça donne envie de poursuivre avec cette série-là. Et je suis très curieux de voir qu'est-ce que Boris et Spiessard vont développer au fil des prochains tomes. Mais d'ici là, sincèrement, si vous appréciez l'humour un peu tendance absurde, si vous appréciez l'imaginaire de science-fiction et si vous avez accès à des publics jeunesse qui vont pouvoir également apprécier ça, eh bien, nécessairement, là, vous avez des ingrédients suffisants pour plonger dans l'univers de Home, donc premier tome chez Dupuis. Je fais le saut également, puis je reste dans le jeunesse cette semaine avec les Sœurs Grimiel, le tome 2. Je vous avais parlé il y a quelque temps de ça, du tome 1, un premier tome que j'avais bien apprécié. Je trouvais qu'il y avait là des bons ingrédients pour une série qui utilisait, si on peut dire, un a priori un peu plus fantastique dans l'imaginaire pour aborder des éléments plus pragmatiques dans le rendu final, si on peut dire. Donc, le premier tome qui, à travers un peu un univers de rêve, un univers un peu onirique et un mystère attaché à ces rêves-là, qui finalement nous ramenait à l'enjeu du deuil périnatal, au bout du compte, et de la place que ce deuil-là occupait à la fois dans la psyché des parents et qui avait peut-être orienté ou perméabilisé, dans le fond, la façon dont il avait abordé ensuite, dans les années qui ont suivi, les autres enfants. Donc, évidemment, il n'y avait rien de fantastique, finalement, dans ce qui était proposé dans l'arrivée, mais le chemin pour s'y rendre, lui, empruntait beaucoup à l'approche du mystère et à l'approche un peu fantastique. Et donc, on garde la recette dans le tome 2, en autant qu'on puisse parler d'une recette, là, on s'entend, dans la mesure où, pour ce tome 2-là, évidemment, on ouvre beaucoup de portes, mais on pourrait dire que le thème dominant, c'est l'affection, c'est l'amour, c'est les choix qu'on doit faire et les choix qu'on s'impose de faire aussi, et peut-être un peu de lâcher prise parfois, qu'on peut se lancer. Donc, il est amené sous le pas d'une histoire d'amour potentiel, de vacances qu'une des sœurs a, et d'une correspondance avec un autre amour potentiel qui, lui, est resté en ville, puisque eux vont quitter vers la campagne, vers la demeure de leur grand-mère pour la période des vacances. Et donc, elle va se retrouver, cette sœur dont le nom m'échappe momentanément. Elle va se retrouver, si on peut dire, à se sentir obligée de choisir, de partager. Et à travers tout ça, il y a l'histoire justement d'une jeune princesse qui, confrontée à deux amours autour duquel elle ne su choisir, elle se serait jetée dans un lac. Et là, ça donne que justement, il y a des ruines avec une cloche qui sonne et on ne sait pas trop pourquoi. Alors ça, c'est un peu, disons, l'a priori initial. Et à travers tout ça, plusieurs autres questions qui s'ouvrent, plusieurs portes qu'on ouvre sur la vieillesse, sur la maladie, sur la famille, sur la perte de soi, la perte de l'amour et le reste. Donc, quand même plusieurs questions qu'on amène et qui donnent une certaine richesse, on peut dire, à l'album. Évidemment, il y a quand même beaucoup à discuter, à explorer autour de ça et c'est pas toutes les portes qui sont ouvertes qu'on va véritablement refermer. Mais à tout le moins, la trame principale que je vous ai exposée, elle, va être menée de bout en bout. Et donc, ça montre encore une fois, je pense, l'intérêt peut-être de cette démarche-là que proposent Giovanni Di Gregorio et Alessandro Barbucci, donc respectivement scénariste et dessinateur, de métisser dans le fond ou d'aborder par ce qui peut être en apparence fantastique, mais des sujets qui sont, somme toute, assez pratico-pratiques, mais parfois difficiles à faire comprendre, faire percevoir, parce que, justement, abstrait. Donc, l'idée de la perte, c'est pas évident à illustrer. Donc, dans le premier tome, alors, on a trouvé une façon de l'amener. Et dans le second tome, l'indécision, au bout du compte, encore là, c'est un concept relativement abstrait. L'amour, l'attachement, il reste aussi. Alors, on trouve une façon à travers un événement qui pourrait être fantastique, mais qui finalement ne l'est pas, de justement ouvrir la porte à cette exploration-là. Alors, j'aime beaucoup l'a priori de la série. En plus, c'est bien dessiné, c'est coloré, c'est expressif, c'est bien fait, c'est bien mené, c'est bien rythmé. Et pour moi, dans le fond, j'avais un intérêt au premier tome. Je trouvais qu'il y avait un potentiel qui était là. Et à mon sens, le deuxième tome vient asseoir ce potentiel-là et confirmer peut-être que c'est une série qui est à découvrir. Pour autant que ce type de sujet-là vous intéresse, clairement, pour un public jeunesse, ça peut répondre aussi à un intérêt assez vif. Donc, vraiment quelque chose à découvrir. Si vous n'étiez pas plongé, si vous hésitiez, Mais je pense que ça peut valoir la peine si ce type d'intrigue-là, je le redis, vous appelle. Ben, voilà. Donc, les Sœurs Grémillet, le tome 2 qui s'appelle Les Amours de Cassiopée. Et bien, justement, on l'a là, le nom de cette sœur cadette. Alors, ben, c'est de Giovanni Di Gregorio et d'Alessandro Barbucci. Et c'est également du côté de chez Dupuis. Eh bien, voilà qui conclut cette édition de La Vie en BD. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur lavieenbd.com en rediffusion. C'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine.